Place à présent, comme chaque mardi, à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Frédéric Suteau. Bonjour à vous, Frédéric.
Bonjour, bonjour à tous.
Tout d'abord, l'attentat à la gare de Marseille dimanche.
Une attaque au couteau, juste devant la gare Saint-Charles de Marseille, dans le sud de la France, dimanche après-midi. Un homme a sauvagement agressé et tué deux femmes sur le parvis de la gare. Les témoins expliquent que tout est allé très, très vite. Les deux jeunes femmes qui étaient cousines étaient âgées de 20 ans. L'assaillant a été tué peu après par une patrouille militaire de l'opération Sentinelle, hein, ces militaires qui sont déployés dans les villes, sur les lieux publics, justement pour assurer la sécurité dans le cadre des mesures adoptées depuis les attentats de 2015 en France. Alors le tueur aurait crié « Allah Akbar », c'est l'une des raisons pour lesquelles une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'attaque a été revendiquée dans la soirée par l'organisation État islamique. Une attaque au couteau. Les premiers éléments de l'enquête nous indiquent que l'agresseur avait été interpellé deux jours plus tôt, vendredi dernier, non pas à Marseille, mais à Lyon, arrêté pour vol à l'étalage. Il avait été placé en garde à vue jusqu'à samedi, veille donc de l'attentat, avant d'être relâché. Il avait avec lui, lors de l'interpellation de vendredi dernier, un passeport tunisien. Mais depuis 2005, cet homme, nous disent les enquêteurs, avait été interpellé à de nombreuses reprises avec des documents d'identité différents. Alors quels étaient ses liens éventuels avec la mouvance terroriste, hein, même si l'organisation État islamique a revendiqué l'attentat? À quel point était-il radicalisé? A-t-il agi seul? Avait-il des complices? C'est toutes ces questions que vont devoir éclaircir les enquêteurs. Cette nouvelle attaque, en tout cas, et la mort de deux jeunes femmes nous rappellent que la menace est toujours là, des actes isolés ou pas, mais des attaques qui peuvent viser à tout moment la population. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit profondément indigné par cet acte barbare, faisant part de sa peine, a-t-il dit, pour les familles et les proches des deux victimes.
Parmi les faits marquants du week-end encore, l'effondrement d'une tribune lors d'un match du championnat de France de première division.
À Amiens, au stade de la Licorne, Amiens effectivement recevait Lille, match comptant pour la 8e journée du championnat de France de Ligue 1. Les Lillois ont ouvert le score au quart d'heure de jeu. Les supporters lillois, comme on le voit dans tous les stades du monde, ont célébré le but. Ils se sont massés vers le bas de la tribune où ils se situaient. Et là, dans cette tribune réservée aux visiteurs, un pan de la tribune, une barrière sur le bas a cédé et de nombreux supporters sont alors tombés en dessous, une chute de 2 mètres avec les supporters tombant les uns sur les autres par dizaines. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais de très nombreux blessés, plusieurs dizaines de blessés. Le match a aussitôt été interrompu et quand on revoit les images, c'est un petit miracle qu'il n'y ait pas eu de mort, avec le poids de tous ces supporters hein, qui sont donc tombés les uns sur les autres. Cet épisode nous renvoie à des souvenirs lointains mais douloureux, comme ce qui s'était passé au stade de Furiani à Bastia en 1992, où toute une tribune amovible s'était effondrée. Là, le bilan avait été bien plus lourd, avec 18 morts. Samedi, à Amiens, le pire a donc été évité, mais cet épisode, bien entendu, pose nombre de questions. Le président d'Amiens, dans la soirée, après le match, après les faits, a eu des propos malheureux. Il a fustigé le comportement des supporters lillois qui se sont jetés donc sur le bas de la tribune pour célébrer le but, dénonçant des supporters ultra chauffés à blanc. Mais dimanche, le président du club d'Amiens s'est finalement excusé, et de fait, dans tous les stades, il y a cette coutume de voir les supporters adverses, les visiteurs se précipiter ainsi sur le bas de la tribune. On n'avait pas là affaire à des hooligans. Il n'y a pas eu de bagarres qui ont précipité la chute de cette barrière. Non, ils n'ont fait que célébrer le but de leur équipe. Aujourd'hui, nombre de questions se posent dans la mesure où l'infrastructure, le stade en lui-même, ce stade de la Licorne d'Amiens construit en 1999, est un stade particulier déjà dans son architecture, avec une structure en verre tout en hauteur, hein, derrière les tribunes. Vous avez cette sorte de verrière qui fait office de toit. Et il y a des polémiques, oui, car depuis plusieurs années, il était de notoriété public à Amiens que le stade, sa structure vieillissait très mal, avec de la rouille un peu partout, une dégradation de la toiture et des plaques de verre, certaines plaques qui menaçaient de tomber, à tel point que le stade a été partiellement fermé. Des travaux ont dû être effectués depuis 2016 en toute urgence. Au printemps dernier, Amiens est monté à la surprise générale en première division. Hein, dans les dernières secondes de la dernière journée du championnat de France de Ligue 2, les Amiénois ont décroché leur billet pour la Ligue 1. Or, un stade de 12 000 places est trop limite pour jouer en Ligue 1. Il est sous-dimensionné. Amiens jouait donc dans ce vieux stade de la Licorne ses matchs depuis le début de la saison. Mais une partie des tribunes restait fermée pour des travaux, la rénovation. Et à l'aune de ce qui s'est passé samedi, eh bien des supporters d'autres équipes qui sont venus depuis le début de la saison à Amiens ont témoigné et ont expliqué que, oui, la tribune des visiteurs faisait peur, qu'elle semblait pouvoir céder à tout moment. La Ligue nationale de foot a pourtant donné son agrément en début de saison au club d'Amiens pour que l'équipe puisse jouer ses matchs dans ce stade de la Licorne. A-t-elle, la Ligue de foot, fermé les yeux sur l'état réel de la structure face aux enjeux de cette montée en première division ? Quid de la mairie d'Amiens ? La mairie d'Amiens qui, depuis des années, est alertée de la dégradation rapide de l'enceinte, mais qui a tardé à prendre conscience du problème, ou en tout cas à faire démarrer les travaux. Samedi, certes, ce n'est pas une plaque de verre qui est tombée du toit, c'est le bas des gradins, on l'a dit, une barrière qui s'est effondrée, mais la catastrophe n'était vraiment pas loin. Il y a eu catastrophe, mais cela aurait pu être bien pire. Aux dernières nouvelles, tous les blessés ont pu quitter l'hôpital. Quant au match de samedi, sera-t-il donné à rejouer ? La victoire sera-t-elle donnée à Lille, qui venait d'ouvrir le score ? D'un point de vue purement sportif, les deux équipes, en tout cas, Amiens et Lille, ont besoin de points après un début de championnat des plus poussifs. Hein.
Tout autre chose, en ce mois d'octobre, en France, c'est la saison des vendanges et un phénomène auquel doivent faire face les viticulteurs, le vol de raisins.
Oui, on se croirait dans une série TV avec la guerre entre les villages, les familles, les héritiers, la contrebande avec comme support les vignobles classés grands crus de la région de Bordeaux. Mais tout cela est bien réel. Pas moins de 7 tonnes de raisins ont été volées dans les vignobles du Bordelais fin septembre, volées sur pied. C'est-à-dire que tout ce raisin a été coupé sur les pieds de vignes. Hein. Il a été vendangé proprement, mais illégalement, de nuit, à Pomerol, à Montagne, près de Saint-Émilion, à Génissac, pour un Bordeaux supérieur, ce sont plus de 30 000 grappes de raisins qui ont ainsi été dérobées dans certaines propriétés. Le phénomène n'est pas complètement nouveau, mais il atteint des proportions inquiétantes. Cette année, une enquête, bien entendu, a été ouverte. Les propriétaires de ces grands crus ont déposé une plainte, sachant que pour les viticulteurs, il est très difficile de contrôler tout ce qui se passe la nuit dans leurs champs de vignes à perte de vue. La gendarmerie a intensifié ses patrouilles. Certains viticulteurs mettent en place leur propre système de surveillance. Mais à ce jeu des gendarmes et des voleurs, ces derniers, les voleurs, ont de la ressource. Alors qui se cache derrière ces vols à grande échelle ? Toutes les hypothèses sont avancées. Un viticulteur de la région a eu cette phrase qui a été reprise depuis plusieurs jours pour résumer la situation. Il est tentant d'aller se servir chez le voisin, surtout en cette année 2017 où la récolte en quantité sera très faible, l'une des plus faibles depuis 1945, la faute au gel de cet hiver qui a été très très dur, le gel mais aussi la sécheresse qui a suivi durant cet été. Les vignes ont souffert, la récolte n'est pas bonne en cette année, la récolte sera maigre et on assiste donc à ce vol de raisins de façon quasi systématique maintenant, des équipes particulièrement organisées. Hein. Le phénomène touchait déjà, on le savait, des vignobles du Bourgogne depuis quelques années, mais là ce sont de grandes propriétés bordelaises qui sont touchés. Heureusement, s'il n'y a plus assez de vin français, il nous restera toujours le bon vin australien.
Voilà, merci à vous Frédéric. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.